RFI. La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à Roland Collin, témoin et acteur des indépendances. Roland Collin publie son récit de vie aux éditions Présence africaine et revient sur ses engagements pour la liberté en terres africaines. Libre penseur, il nous révèle sa philosophie du développement. Libre passeur, il s'amuse à retraverser le miroir afin de nous transporter dans son pays d'enfance, la Bretagne.
Le fait de revenir sur les lieux du départ, au stade de ma vie, c'est comme si la boucle était bouclée d'une certaine manière. Le sentiment d'un long parcours, presque une traversée de siècles, toute une série d'étapes. Et je garde le souvenir d'une trace qui me vient de Sikasso, mon premier séjour dans ce royaume du Kénédougou. J'étais jeune, j'avais 23 ans à l'époque. Et là, il y avait la mémoire du dernier roi du Kénédougou, vaincu par l'armée française au moment de la conquête, qui a préféré se suicider plutôt que de se rendre prisonnier des conquérants, mais dont la dernière parole, c'est « ce n'est pas fini » en Bambara, « Amaba ». Et je garde cette injonction-là aujourd'hui, comme hier ou avant-hier, je me dis « Amaba, ce n'est pas fini ».
La voix de Roland Collin dans la marche du monde, breton, français, bambara, mais aussi peul ou encore dioula. L'auteur de la Toison d'or de la liberté signe le début d'une nouvelle aventure, celle de la transmission de son expérience humaine, de la décolonisation. Mais pour commencer, Roland Collin, je me demande tout simplement en quelle langue vous allez avoir envie de saluer les auditeurs de RFI.
Je peux les saluer en bambara. Et comme nous sommes l'après-midi, je leur dirai... Anivoula.
Est-ce que pour exprimer différents sentiments qui vous habitent, vous choisissez à chaque fois une langue différente?
Le choix des langues se fait, je dirais, automatiquement. Il y a une sorte de logique qui s'impose biologiquement. Et puis, le contact est établi et c'est ça l'essentiel.
Et quand vous êtes amoureux, Roland Collin, vous parlez quelle langue?
Le français quand même, le français.
Le français, c'était pour les mots d'amour à votre compagne, Renée?
Avec quelques petites diversions en bambara. Il y a une expression en peul que j'ai trouvée tout à fait merveilleuse. Koripoli bernema firai. Ce qui veut dire, à l'aimer, que les oiseaux de ton cœur ne s'envolent pas. Voilà.
Très joli. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les langues sont également au centre des rapports de domination et pas seulement au centre des relations amoureuses. Et vous établissez d'ailleurs un parallèle entre la langue bretonne et les langues africaines. Pour quelle raison?
Parce qu'effectivement, disons, dans le rapport à l'environnement, le rapport à la terre, le rapport au vivant, le rapport aux animaux, j'ai trouvé vraiment des positions tout à fait comparables. Et j'en veux pour preuve que quand j'ai découvert la langue bambara, en bambara, le cheval est un animal de prestige qui permet les déplacements. Et quand la bicyclette a fait son apparition, les bambara l'ont nommé dans leur langue Negesso, ce qui veut dire le cheval de fer. Et tout ça a ravivé dans ma mémoire, disons, une démarche totalement comparable en breton, où dans la basse Bretagne où j'ai vécu, c'était aussi une civilisation du cheval. Et avant les tracteurs, c'était le cheval qui était l'animal de prestige. Et comment dit-on en breton aujourd'hui encore la bicyclette Marouarn, ce qui veut dire le cheval de fer.
Alors si vous faites des ponts naturels, si vous établissez des ponts naturels entre la langue bretonne et les langues africaines, vous regardez aussi de quelle façon elles ont été dominées par une autre langue, le français.
Bien sûr.
Et c'est là que s'exerce ce rapport de domination.
Oui. Ma vieille grand-mère, à qui je dois tant, ne savait pas un mot de français avant d'aller à l'école primaire. Elle a commencé d'apprendre le français à l'âge de 7 ans. Ce qui veut dire d'ailleurs que, le français appris par l'école était un français particulièrement correct, grammaticalement bien cadré, calibré. Mais en même temps, la langue des origines était intégralement présente parce que, effectivement, l'enfant avait été élevé maternellement dans cette langue. Et j'ai retrouvé exactement cette même situation dans les pays africains et chez les paysans africains qui m'accueillaient.
Alors, vous l'aurez compris, chers auditeurs, avant de partir en terres africaines, Roland Collin nous entraîne en terre bretonne, dans le village de Guipavas, puisque c'est là que sa grand-mère l'a élevé avec notre reporter Philippine Lebré. Ils sont revenus tous les deux sur les traces de l'enfance de Roland, petit garçon de 8 ans en 1936.
On est devant la ferme de Kayunker, qui était donc l'exploitation agricole de la famille principale. Cette ferme n'est plus en activité. Elle a été rachetée par des gens d'ici qui en ont fait une résidence secondaire. J'y retrouve beaucoup de souvenirs. J'arrive d'ailleurs virtuellement à reconstituer les bâtiments qui ont disparu. Il y avait plusieurs granges en fer à cheval. Et j'ai le visage tourné vers la maison principale. Sur la gauche, il y avait un autre bâtiment, le long du fer à cheval, un petit bâtiment de laiterie où on traitait le lait pour en extraire la crème et en faire le beurre, parce qu'effectivement, le beurre était la production principale. Et il y avait des moules en bois avec un dessin spécifique, en quelque sorte les armoiries de la famille paysanne, que tout le monde connaissait, ici à Guipava.
Comment vous, qui étiez d'abord un enfant, puis ensuite un adolescent, participiez aux travaux de la ferme?
On gardait les vaches, même le dimanche. Elles étaient deux fois plus hautes que nous. On savait les faire avancer. On avait d'ailleurs des bâtons pour les inciter lorsqu'elles étaient rétives. Et puis alors, au moment des moissons, on miniaturisait un peu le travail des adultes. C'est-à-dire, on portait un peu de paille vers le gros tas de paille, alors que les adultes les portaient à hauteur de fourche. Et puis après, quand on faisait sécher le blé, alors dans l'air de...
Dans la cour de la ferme.
Dans la cour de la ferme, on constituait une petite brigade pour dissuader les volailles de venir prendre des parts abusives dans ce qui était, disons, le blé pour les humains. Voilà.
Dans vos mémoires, vous faites un parallèle assez soutenu entre ce monde paysan breton, oui, dans lequel vous avez grandi, et notamment, oui, ici à la ferme de Kayunker, et puis la paysannerie africaine que vous, oui, avez découverte quand vous êtes parti vous installer, d'abord à Sikasso, qui était donc à l'époque au Soudan français. Pourquoi est-ce que vous faites ce lien entre des paysanneries qui sont quand même distantes d'un certain nombre de milliers de kilomètres?
Quand je me suis retrouvé dans le monde rural africain, d'abord, j'ai trouvé des rapports entre les hommes et la terre qui... s'inscrivait tout à fait dans ce que j'avais vécu et connu dans mon enfance. Et j'ai le souvenir très précis d'une conversation avec un vieux sage. Je lui parlais de Kayunker, de ma grand-mère, et tout lui était intelligible. Et ça, je crois que c'est des choses précieuses, parce que effectivement, c'est une manière de réconcilier le jeu de l'universel et de la différence.
Comment ça se fait que vous êtes né dans un bistrot?
Ben parce que mon père était immigré à Paris et ma grand-mère tenait vraiment à ce que je naisse breton en Bretagne. Donc ma mère est venue accoucher ici à Guipava. Voilà. J'étais donc déclaré à l'état civil et baptisé dans l'église de Guipava juste en face. Voilà. marche. Oui. Je vais vous raconter une histoire. À droite et à gauche, il y avait deux comptoirs avec en surplomb de ces comptoirs des étagères et les marchandises à vendre. Et le comptoir du fond était le comptoir du débit de boisson. Et donc, il y avait toute une série d'étagères avec les bouteilles. Et je me souviens qu'un jour de dimanche, et moi, je naviguais, si je puis dire, entre ces grandes personnes, et je les entendais qui commandaient un vermouth cassis. En abréviation, ils disaient un vermouth casse. Et sur les étagères, il y avait une bouteille qui m'intriguait particulièrement, plus que les autres. Sur l'étiquette, il y avait la figure d'un noir, un nègre, comme on disait à l'époque. C'est une bouteille de rhum negrita. Et donc la figure qui était sur l'étiquette était pour moi un mout de casse. Et donc tout petit, je m'obstinais à appeler un personnage noir un mout de casse. Souvenir d'enfance du bistrot de ma grand-mère.
Cette grand-mère, vous en parlez beaucoup dans vos mémoires et vous dites qu'elle vous a énormément apporté, qu'elle a été très importante dans votre vie. C'est elle qui vous a élevé, puisque vos parents étaient à Paris et vous, vous étiez en Bretagne avec elle. Quelles sont les valeurs qu'elle vous a transmises dans cette éducation bretonne ?
Les valeurs qu'elle m'a transmises, d'abord, c'est des valeurs d'identité. Elle était bretonne. Nous vivions à travers trois cultures, trois langages. Elle me parlait breton très souvent, avec... Je dirais, plus elle se coulait dans la langue bretonne, plus je sentais que la tendresse venait du fond du cœur. Moi, j'ai appris le français petit, mais ma grand-mère, par exemple, n'a appris le français que quand elle est entrée à l'école primaire, à l'âge de 7 ans. Jusque-là, elle ne savait que le breton. Et puis, alors, il y avait le langage de confluence entre la langue bretonne et la langue française. Chaque langue apportait ce qu'elle avait de meilleur. Et donc... Faire sa petite navigation de tous les jours entre ces langages apparaissait comme quelque chose de tout à fait naturel qui permettait aussi d'admettre l'altérité et non pas de la ressentir comme une menace, mais au contraire comme une source d'enrichissement.
On va essayer de rentrer.
On va voir.
On passe par la grille en fer forgé.
Ça n'a pas du tout changé, tu vois. Voilà. Tu vois, les classes, c'était à droite et à gauche.
Des deux côtés de la cour, il y a des bâtiments en pierre.
Alors, il y avait deux cours de récréation, une cour en contrebas derrière. Et la cour des grands était par là. Voilà l'entrée de la chapelle, là, tu vois.
Sur notre droite.
Sur notre droite. Dans ma famille d'origine, personne n'avait eu accès aux études secondaires. C'est l'intervention d'un prêtre de la paroisse qui est venu voir ma grand-mère et ma tante et qui leur a dit il faudrait qu'ils puissent entrer au collège parce que ses résultats le permettent.
Parmi tout ce que vous avez appris à ce moment-là au collège, est-ce qu'il y a un apprentissage, un savoir qui a en quelque sorte modifié la vision que vous portiez sur le monde à l'époque ?
J'avais vraiment une sensibilité très forte à la géographie. Et la géographie qui était la découverte du vaste monde, et en particulier du monde des tropiques, de l'Afrique et de l'Asie, bien sûr, qui me fascinait beaucoup. Et donc ça, j'en ai gardé un souvenir extrêmement fort. J'ai fait beaucoup de lectures à l'époque, dans la demeure de Kerlécu, où habitait ma famille. Il y avait la trace d'un grand-oncle qui avait été dans l'armée de conquête de l'Afrique, qui avait envoyé des cartes postales à ma grand-mère, notamment d'Oubangui Chari. Et sur ces cartes postales, je découvrais avec émerveillement l'effigie d'une superbe panthère qui me faisait rêver. Donc la panthère d'Oubangui Chari habitait déjà mon, mon imagination avant même que j'ai abordé, disons, l'étude de cette géographie. Mais après, tout ça s'est précisé, instrumenté, et ça a été vraiment des découvertes très fascinantes pour moi.
Les cours de récréation étaient aussi animés de votre
temps ? Oui, bien sûr, bien sûr. La grande différence avec mon temps, c'est qu'il n'y avait pas de filles. Maintenant, c'est un collège lycée mixte.
Et au collège, comment vous enseignait-on ces mondes-là, et notamment l'Afrique coloniale ?
On nous enseignait peu l'Afrique coloniale, mais on avait des manuels. Et je me souviens qu'il y avait un chapitre terminal dans le manuel de géographie sur l'Empire colonial français. Et les colonies françaises étaient teintées en rose sur la carte du monde. Et le résumé portait cette mention. Les colonies françaises sont de deux sortes, les colonies de peuplement et les colonies d'exploitation. Vous ne comprenez pas très bien ce que ça voulait dire. Avant d'entrer au collège, j'avais des rêves d'enfant sur l'Afrique ou ailleurs. Au collège, c'est devenu des rêves d'adolescence qui présageaient des rêves et plus que des rêves d'adultes.
L'initiation bretonne de Roland Collin au micro de notre reporter Philippine Lebray, une expérience fondatrice qui stimule votre imaginaire. Et pour partir justement à la découverte de cette géographie africaine qui vous fascine, vous allez intégrer l'École nationale de la France d'Outre-mer. Roland Collin, nous sommes en juillet 1948 et vous avez tout juste 20 ans. À quelle fonction êtes-vous formé à ce moment-là ?
Nous étions formés aux responsabilités de l'administration territoriale. Nous étions promus à devenir des administrateurs d'outre-mer.
Parce que nous sommes dans la Grande France, dans l'Empire français, nous sommes en 48, donc la question de l'indépendance n'est pas encore à l'ordre du jour. Et comme professeur, vous avez à l'époque, Roland Collin, l'illustre Léopold de Sédar Senghor. Je rappelle qu'il est le premier Africain agrégé de lettres, justement de l'Empire français.
Le docteur Price-Mars est le premier qui ait éveillé Haïti à la conscience de son authenticité et même de son être. Mais cette conscience raciale n'est pas une conscience raciste. Le docteur Price-Mars a été le premier à nous dire que la civilisation de l'universel ne sera pas le fait d'un seul continent ni d'une seule race. Que la civilisation de l'universel se trouve au rendez-vous du donner et du recevoir. Et il a préparé Haïti et à travers Haïti, tous les Noirs, il les a préparés à ce rendez-vous du donner et du recevoir. De telle sorte que, aujourd'hui, ou plutôt le 15 octobre, ce que nous fêterons, ce sera le 80e anniversaire de la négritude.
La voix de Léopold de Sédar Senghor, qui a été votre enseignant, votre premier maître à penser peut-être, Roland Collin, lorsque vous êtes jeune étudiant à cette École nationale de la France d'Outre-mer, quels souvenirs vous gardez de sa façon d'enseigner ?
Les cours de Senghor étaient des cours de poète en même temps que des cours de langue.
Il était théâtral ?
Très théâtral. Je me souviens en particulier que certains soirs, les cours avaient lieu en fin d'après-midi, l'hiver, il éteignait la lumière dans l'amphithéâtre, il prenait une lampe électrique, il se la dirigeait sur le visage et nous voyions son visage comme un masque et il nous récitait le dernier des poèmes qu'il avait composé, tout en scandant régulièrement la métrique de ses strophes en frappant d'une bague qu'il avait au doigt sur le pupitre qui était devant lui. Et nous étions complètement fascinés parce qu'effectivement, le masque vivant proférait le poème et le poème créait le masque. Et nous avions compris beaucoup de choses sur la dimension esthétique africaine à ce moment-là.
Et vous soulignez dans vos mémoires, Roland Collin, que la négritude, c'est un humanisme qui souvent a été mal compris. Pourquoi ?
La négritude a été très souvent comprise comme une volonté de se mettre à l'écart du monde. Alors que pour Senghor, c'était une façon de prendre sa place dans le monde. Et ça, je l'ai très bien compris rapidement, d'autant plus que je sentais des connivences avec ma racine bretonne. Et Saint-Gor m'a dit un jour, il y a peut-être ceci de partager entre nous, c'est que moi j'ai ma négritude et vous avez votre celtitude.
Alors ce qui est paradoxal, Roland Collin, c'est que vous êtes destiné à devenir un administrateur colonial et vous choisissez d'aller vous perdre en brousse avec votre René de femme du côté de Sikasso.
Aena, aena. Aena.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI au son du balafon du groupe Sénoufo, Neba Solo, dont la mélodie nous entraîne sur les rives du Niger en 1952 au Soudan français actuel Mali. C'est là que notre grand témoin Roland Collin est nommé à l'âge de 23 ans. Donc Roland, c'est votre premier poste d'administrateur colonial. Moi j'aimerais que vous nous fassiez revivre la réalité que vous découvrez à ce moment-là.
Je découvrais une réalité qui avait été en quelque sorte préfiguré par les dialogues que j'avais étudiants avec les étudiants africains de l'époque. Et je peux dire, mon meilleur ami de l'époque se nommait Joseph Kizerbo, qui est devenu le plus grand historien de l'Afrique, bien sûr. Et Joseph, lui-même, fils de paysan, vivant sa négritude, confident de mes vagabondages bretons d'adolescence, me disait... jeune comme tu es, avec tes idées ouvertes sur le monde, il faut que tu entres dans l'administration d'outre-mer pour la faire changer de l'intérieur. Et nous, de l'extérieur, on se donnera la main et nous marcherons ensemble vers la liberté. Et ces propos tenus avant que je parte en Afrique se sont gravés dans mon esprit pour toujours. Et c'est à partir de là que j'ai découvert effectivement la réalité du vécu de l'Afrique, de la colonisation et du colonialisme.
Et cette expérience très intense, vous la partagez avec René, l'amour de votre vie. Quelle place arrive-t-elle à prendre à vos côtés?
René est également issu d'une famille appartenant à l'Occitanie rurale profonde, si bien que nous avions beaucoup de connivence déjà. Et lorsque nous nous sommes rencontrés au quartier latin, dans notre vie étudiante, elle s'est inscrite également à l'école des langues orientales. Elle a appris le bambara, le dioula, le malinké. Et lorsque nous avons débarqué ensemble dans ce Soudan des années 1950, eh bien, elle y a trouvé sa place tout de suite, avec une position tout à fait particulière, c'est qu'elle pouvait se mettre à l'écoute des femmes africaines dans leur langage et dans leur intimité. Et ceci avait vraiment énormément de prix, parce que là, les femmes blanches, disons, se cantonner dans une sorte de forteresse de supervisant la marche du monde, si on peut dire. Et là, effectivement, nos regards étaient tout à fait croisés et complémentaires. Voilà.
Ensemble, vous passez du monde rêvé au monde vécu. Et c'est ce que va théoriser l'anthropologue de l'émancipation, Georges Balandier, un autre de vos maîtres. Il explique le titre de son livre paru en 1957, « L'Afrique ambiguë ».
À vrai dire, s'il y a ambiguïté, c'est non seulement dans le domaine africain, c'est aussi dans l'européen qui observe l'Afrique. Et je me permettrai à cet égard de me reporter au début de ma carrière, n'est-ce pas? En 1946, lorsque je quittais l'Europe, je désirais rejoindre en Afrique des formes de civilisation qui me semblaient peut-être plus simples, plus cordiales, plus chaleureuses. Je vivais sur une illusion ethnologique, qui n'était pas due d'ailleurs uniquement aux mauvais enseignements de mes maîtres, qui était dû à un jugement, disons, incomplet de l'Europe. Mais ce jugement incomplet de l'Europe ne concernait pas simplement l'Afrique, mais aussi l'Asie. Tous ces pays que l'on considérait comme marginaux jusqu'à cette époque, n'est-ce pas? Et puis, lorsque j'ai eu à enquêter à séjourner assez longuement en Afrique, je me suis aperçu très vite que j'étais arrivé sur le continent avec un lot considérable d'illusions. J'ai eu à réviser toutes mes façons de voir, toutes mes façons de juger scientifiquement les problèmes et les hommes. Et très vite, j'ai été beaucoup plus attiré par les tâches nouvelles qui s'imposent à l'Afrique. Vous savez fort bien, pour y avoir voyagé, combien les sociétés noires ont à se refaçonner, combien les civilisations noires ont actuellement à se constituer d'une façon nouvelle, à s'adapter au contexte du XXe siècle. Et c'est dans cette mesure, si vous voulez, ce décalage vis-à-vis de mes illusions du départ qui explique mon titre. Mais l'ambiguïté, bien sûr, est tout de même sur le sol africain, dans la mesure même où la tradition coexiste avec des aspects dégradés ou des vieilles institutions, ou dans la mesure même où de nouvelles formes sociales, de nouveaux problèmes s'imposent à l'attention des hommes.
L'Afrique ambiguë définie par Georges Balandier entre les oreilles de notre grand témoin, Roland Collin. Ce qui est intéressant dans ce que dit Balandier, c'est que cette ambiguïté, elle est des deux côtés, ça nous rassure. C'est celle de l'Européen qui arrive en Afrique, c'est aussi celle de l'Africain qui est emprunt d'Europe, d'Occident, de par son statut de colonisé. Comment vous-même avez réussi à vous défaire, en quelque sorte, de ce filtre ?
Je crois que le point de départ énoncé par Georges Balandier, de cette ambiguïté, bien, nous incite à changer de regard sur ce phénomène et concevoir l'ambiguïté, non pas comme un mélange destructeur, mais au contraire comme un lieu de confluence, transformer l'ambiguïté en confluence. Et je crois que toute la problématique du développement que nous avons vécu et dans laquelle nous sommes toujours, et qui est un impératif bien au-delà de l'Afrique et de l'Europe, mais je crois pour l'humanité dans laquelle nous sommes, nous vivons de gigantesques ambiguïtés, et nous avons la tâche immense de les transformer en confluence, ce qui gagera la survie, je crois, de l'espèce humaine.
Roland Collin, c'est ensuite à Dakar que vous êtes nommé Dakar, où vous êtes appelé à jouer un rôle de premier plan auprès des deux pères fondateurs du Sénégal indépendant, Léopold de Sédar Senghor, le premier président, et Mamadou Dia, le premier président du Conseil. Dakar, bien sûr, c'est la capitale du Sénégal, où je me suis rendu pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niass, votre alter ego, ami et lecteur de votre manuscrit publié aux éditions Présence africaine et intitulé, je le rappelle, « La toison d'or de la liberté ».
Roland Collin est un Africain de France, comme je l'appelle souvent. Il est devenu et il est resté un grand Africain. Cet homme incarne une vision. Il porte aussi une mission. Et il est l'expression et l'illustration d'un humanisme en mouvement. Il vient d'achever la rédaction d'un manuscrit de ses mémoires. J'ai lu et relu une seconde fois ce manuscrit, qui est un monument et un mémorial. Histoire, littérature, humanisme, anthropologie et culture sont les caractéristiques de ces mémoires.
Le président Senghor demande à Roland Collin en juin 1957 d'entrer dans l'équipe des conseillers du gouvernement aux côtés de Mamadou Dia, qui prend la tête de l'exécutif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup quel est le rôle de Roland Collin, que vous considérez comme un pionnier du développement?
Roland Collin, en arrivant au Sénégal, une année après le démarrage du nouveau système de la loi cadre, après le vote de la loi Gaston Defferre, voilà donc un jeune administrateur qui arrive au Sénégal au moment où une nouvelle expérience est tentée pour permettre aux cadres africains élus des populations d'assumer des charges de nature gouvernementale pour tracer, préciser et organiser dans l'élaboration d'un programme les perspectives qui devaient nous conduire à l'indépendance politique et à la souveraineté internationale 3 années plus tard, et il ne fallait pas attendre 1960 pour y penser. Et Roland Collin est entré à la demande du président Senghor dans le cabinet du président Mamadou Dia, lequel était président du Conseil des ministres et auparavant vice-président du gouvernement du Sénégal, présidé par le gouverneur Lamy. Ensuite, Roland Collin, avec le père Lebré, que Senghor avait fait venir au Sénégal, ils ont constitué une équipe qui s'appelait Sinam Cereza, et qui était logé à quelques encablures d'ici. Et Roland Collin était parmi les jeunes administrateurs français qui côtoyaient les jeunes administrateurs sénégalais, comme Daniel Kabou, Cheikh Amidou Kane, Babacar Ba, Christian Valentin, Habib Thiam et d'autres de cette génération de l'Enfom pour élaborer le premier plan de développement économique et social du Sénégal. La plupart de ces administrateurs français d'un côté, sénégalais de l'autre, étaient des mêmes promotions à l'École nationale de la France d'outre-mer, boulevard de l'Observatoire à Paris. Ils se connaissaient donc déjà. Et une fois leur diplôme obtenu, ils se sont retrouvés dans différents territoires français d'Afrique. Ceci a beaucoup facilité l'entrée dans l'espace de réflexion, d'animation, de synthèse et d'élaboration des politiques publiques qui devaient conduire vers deux objectifs. Le premier, s'habituer à gérer des comportements et des décisions de nature et de contenu administratif d'un côté, de l'autre, apprendre à mettre en place un État. Voilà comment Roland Collin a fait ses premiers pas au Sénégal.
Chantier extraordinaire que celui de la construction de l'État sénégalais, Roland Collin, mais un État de tête, celle de Senghor et celle de Mamadou Dia. Et vous qualifiez d'ailleurs l'alliance de ces deux hommes de miraculeuse. Pourquoi ?
Ces deux hommes étaient unis par une sensation immédiate de la culture africaine, du vécu de la culture africaine. Et en même temps, leur itinéraire était parti de points totalement différents. Mamadou Dia était un homme profondément impliqué dans son terroir, peul, tout couleur, comme on disait à l'époque, profondément proche du monde paysan, instituteur et engagé à ce titre, mais déjà très conscient de ce qu'il appelait, lui, l'authenticité africaine, qui allait, disons, rejoindre la négritude de Senghor. Alors que Senghor, expatrié, très jeune, vers l'Europe, était sommé, en quelque sorte, de conquérir, reconquérir sa propre négritude. Et le poète, d'un côté, et l'homme de la base, qui connaissait vraiment la condition des paysans, je la qualifiais de miraculeuse.
Alors vous devenez directeur du cabinet de Mamadou Dia pour mettre en œuvre la philosophie du développement pensée par Mamadou Dia, fils de paysan, vous venez de le rappeler, ancré dans cette ruralité et conscient des rapports de domination induits par la colonisation française. Alors est-ce à dire que le socialisme africain est pensé par Senghor, mais finalement élaboré sur le terrain par Mamadou Dia ?
Le socialisme africain est à la fois pensé et élaboré par chacun, en fonction de son propre vécu. Senghor, déjà, pressentait cette vision du socialisme rejoignant ce qu'il appelait son royaume d'enfance, qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, et avait vraiment l'aspiration catégorique de retrouver des racines à ce qui serait le socialisme, alors que Mamadou Dia l'avait vécu lui aussi dans son enfance, de la même manière, avec davantage de références concrètes, de références quotidiennes pour Mamadou Dia que pour Senghor.
Alors j'invite nos auditeurs à ouvrir grand leurs oreilles, car nous allons vous retrouver en pleine séance de travail avec Mamadou Dia autour de la notion de coopérative de développement.
Tu avais lancé l'idée de coopérative de développement à la base. Et tu c'est voyais ça. Donc une transformation, un élargissement de la vocation coopérative.
Exactement.
Tu réfléchissais d'ailleurs sur les communes yougoslaves.
Sur les communes yougoslaves. Et j'étais en train, justement, et je préparais déjà la création des communes rurales. Je n'ai pas voulu les appeler de communes populaires, parce qu'il suffisait, n'est-ce pas, de les appeler de communes populaires pour qu'on dise « Ah, c'est l'expérience chinoise », etc. Mais au fond, c'était le schéma... C'était le schéma chinois.
Alors, une des originalités, je crois, essentielles de cette politique, c'était justement le lancement de l'animation rurale, qui était probablement le chaînon manquant de toutes les politiques coopératives jusqu'à présent, parce qu'il n'y avait pas d'instrument de formation au service des paysans.
Exactement. Alors l'animation rurale, justement, c'était vraiment l'école paysanne adulte, n'est-ce pas, je veux dire. Ce sont des paysans adultes qui sont formés aux techniques, n'est-ce pas, aux techniques modernes de développement. C'était ça, n'est-ce pas, et puis un esprit également, n'est-ce pas.
Dans un esprit autogestionnaire.
Dans un esprit autogestionnaire, n'est-ce pas, c'était cela.
Extrait de vos archives sonores, Roland Collin, c'est la voix de Mamadou Dia. Vous dialoguez tous les deux. Un document exceptionnel que vous confiez à la Marche du Monde et je vous en remercie du fond du cœur afin que nous puissions à notre tour transmettre ce témoignage pour l'histoire. Est-ce que c'est une façon pour vous de contribuer à la réhabilitation de Mamadou Dia, sachant qu'il a été arrêté en 1962 au Sénégal, qu'il est resté 12 ans en prison et qu'il a été en quelque sorte effacé de l'histoire?
Je crois qu'il était capital de faire émerger à nouveau sa présence dans l'histoire africaine. Parce qu'effectivement, la novation révolutionnaire de ce qu'il apportait, qui consistait tout simplement à dire la colonisation n'avait apporté en rien les bases d'une citoyenneté africaine autonome. Et ce qu'il apportait, lui, c'est de dire priorité à créer une citoyenneté africaine à partir de la culture, à partir de l'histoire propre, pas des gens du peuple. Et ça, effectivement, ça heurtait d'énormes intérêts, intérêts économiques, intérêts administratifs, des modèles anciens. Mamadou Dia me disait toujours, nous avons conquis le pouvoir, mais effectivement, le piège pour nous, c'est de s'installer dans les moules du système précédent, faciliter destructrice. Et lui disait, il faut vraiment reconstruire la société citoyenne à partir du peuple. Et c'est cela, à cela que répondait cette animation rurale, là, qui était une éducation d'adultes généralisée. Mais effectivement, les seigneurs de l'arachide, de l'intérieur et de l'extérieur, voyaient leurs privilèges mis à mal par ces coopératives autogérées pour les paysans, par les paysans. Et c'est ça qui a créé le drame de 1962. Et Senghor n'a pas su résister à des pressions qui étaient d'ailleurs falsificatrices du réel, calomniatrices de la position réelle de Mamadou Dia, que j'ai vécu vraiment dramatiquement auprès de lui à ce moment-là. Mais tout ça, disons, a fait que son message nécessite d'être réhabilité. Ce qui est important, au-delà et par-delà sa personne, c'est de montrer que le message dont il a été, dont il reste porteur, constitue une valeur tout à fait fondamentale, y compris pour les temps présents. Voilà.
La voix d'or d'une des plus grandes chanteuses africaines pour évoquer votre longue traversée du continent, Roland Collin, qui vous a conduit au Mali, au Tchad, au Niger, au Rwanda, en Guinée-Bissau, mais aussi au Cameroun, en Centrafrique et jusqu'au Burkina Faso de Thomas Sankara. À chaque fois, il s'agissait de mettre en œuvre votre philosophie du développement rural, je dirais citoyenne et participative, dont la référence est sans doute le Niger. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette expérience des années 60, expérience très probante, qui vous conduit jusqu'à Niamey. Pourquoi ça a marché au Niger?
Le Niger, en 1960, vivait, comme tous les territoires qui venaient d'être libérés, disons, ce dilemme très fort de choix d'une voie nouvelle. Et là, Amadou Diori, le président de l'époque, rencontre chez Mamadou Dia, disons, les germes de cette révolution paysanne à faire et décide de s'engager dans une voie comparable.
Vous voulez dire, Roland Collin, que le président Amani Diori, le président nigérien, a cette volonté politique que peut-être Senghor n'a pas eue ?
Amani Diori avait les mains plus libres que Senghor parce que le poids des intérêts économiques étrangers était moins fort au Niger. Diori se rendait compte qu'il fallait repartir des peuples nigériens. Lors de notre première rencontre, Amani Diori me faisait part de ce défi extraordinaire auquel ses fonctions présidentielles le confrontaient. Il s'agissait, disons, de bâtir une nation à travers des peuples qui, du temps de la colonisation, avaient été taillés et positionnés de manière tout à fait différente. Et d'un côté, le Grand Nord, avec les Touaregs, à l'Est, le peuple Haoussa, à l'Ouest, le peuple Djerma et les Peuls, disons, parcourant ce vaste espace. Et Diori avait vraiment le sentiment très fort de la nécessité de construire un projet commun à partir de ce que les uns et les autres étaient. Donc, là encore, mot d'ordre, la confluence. Et il trouvait dans la voie sénégalaise de l'animation rurale, lancée par Mamadou Dia, la clé, disons, de ce défi auquel il était confronté. Et donc, peu avant la chute de Mamadou Dia, une mission nigérienne s'était rendue au Sénégal et Diori avait décidé de lancer une stratégie, une pratique comparable. Et après la chute de Mamadou Dia, lorsque moi-même je me suis retrouvé en Europe, Diori, avec l'animation rurale qui était soutenue par une association dont j'ai pris la direction avec Yves Gousseau, qui s'appelait l'IRAM, nous convie à soutenir son mouvement. Et là, je découvre, donc alors à l'état naissant, cette même problématique que j'avais connue au Sénégal, mais fort de toute l'accumulation méthodologique efficace qui s'était constituée au fil des 5 années précédentes au Sénégal. Et on est parti de là, et pendant 10 ans, l'expérience nigérienne a poussé plus loin tout ce que nous avions porté. Et j'ai essayé d'en rendre compte, d'ailleurs, dans ce livre, La Toison d'or de la liberté, parce que c'est vraiment un ensemble encore plus convaincant, à bien des égards, mais jusqu'à buter, en fin de course, sur un coup d'état militaire. Voilà.
Absolument, ce qui prouve bien que ce soit au Niger ou ailleurs, de nombreuses forces s'opposaient à cette démocratisation des forces de production. Et pour schématiser, c'est le capitalisme qui a vaincu et pas le socialisme. Et lorsque vous avez présenté votre livre au Festival Étonnant Voyageur en mai 2018 à Saint-Malo, vous avez eu un échange particulièrement passionnant avec l'économiste Félouine Sarr, l'auteur d'Afrotopia, remet en question l'hégémonie du système capitaliste en Afrique.
Choisir ce que l'on veut, choisir quelles sont les valeurs qu'on met en œuvre et laisser le temps au processus d'avoir leur propre temporalité pour arriver à leur terme. Et ça, c'est sortir d'une vraie tyrannie, d'une temporalité imposée de l'extérieur. Et ce temps du monde dont on nous dit qu'il faut rattraper, accepter que nous sommes aussi le monde et que ce n'est pas le temps du monde, c'est le temps d'une fraction. L'un des grands biais a été de considérer qu'une émergence, une forme d'économie qui a émergé il y a quelques siècles, qui va grandir, qui aura son apogée et qui va décliner, elle est l'ultima linea. Et en faisant fi de tout ce que les groupes humains ont produit d'intéressant dans les territoires asiatiques, africains, indiens, comme forme d'économicité. Et il y a des économies qui fonctionnent, qui remplissent plusieurs fonctions, allouer les ressources, nourrir, transférer des ressources. Et le continent africain est nourri par ce qu'on appelle l'économie informelle, qui représente plus de 60% du PIB. On la réfère en négatif par rapport à une économie qui serait formelle, puisqu'on est dans une vision que ces économies-là, elles sont subalternes, elles ne valent pas grand-chose, et elles atteindraient leur niveau optimal si elles se moulaient dans le grand capitalisme néolibéral, ce qui n'est pas vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les économistes les plus sérieux sont en train de réfléchir au post-capitalisme. Ils savent que ce système s'effondrera, et comment allons-nous recréer de la valeur, faire circuler des biens et services, contribuer au bien-être du plus grand nombre en sortant d'un schéma centré sur le capital.
Je ne sais pas si Roland veut réagir à ça. Toi qui as connu les grandes mutations.
Je pense qu'on est là sur un point absolument fondamental pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Il y a eu, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, disons des proclamations qui traînent encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des nations qui sont développées et d'autres qui sont sous-développées. Et il y a un chemin que doivent parcourir les sous-développés pour devenir développés. Et on a voulu, disons, imposer ça au monde entier. Alors ça voulait dire que pour combler les retards de développement, eh bien, il fallait faire appel à des experts qui connaissaient ce qui s'était fait ailleurs pour qu'on puisse transformer la réalité en marche vers ce qu'elle aurait dû être. Et le monde est devenu, dans beaucoup de pays, ce qu'il aurait dû être au lieu d'être ce qu'il est. Et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental.
Échange entre Felwine Sarr et Roland Collin lors du festival Étonnant Voyageur. La pensée de Felwine Sarr est une pensée émancipatrice. Il nous invite à nous questionner sur le monde en renouvelant la problématique des rapports de domination. Et il nous invite aussi à nous interroger sur la question de la décolonisation des esprits. Vaste sujet. Alors moi, j'aimerais que l'on revienne à votre propre chemin, Roland Collin. Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous envie de nous transmettre, vous, le grand Africain?
Ce que je puis dire et que je dois dire, c'est que ces dialogues sur de longues années avec ce qu'on appelle les gens de la base, avec le monde paysan, qui rejoignent d'ailleurs des sensibilités de mon enfance, nous indiquent que les acteurs de développement à part entière existent dans cette société qu'on a qualifiée d'informelle pendant longtemps, et qu'elle avait une créativité vraiment tout à fait prodigieuse, à la condition qu'on l'écoute, à la condition aussi qu'on aide à ce que se bâtissent des projets croisés, des projets entre l'État, la société civile. Et là, je reviens à une formule de Mamadou Dia, qui était tout à fait capitale à mon avis. Dia avait parfaitement compris tout cela, disant pour lui, le socialisme humaniste africain était un contrat entre l'État et la nation. Donc entre la société civile, telle qu'elle existe, avec toutes ses responsabilités, et puis ceux qui ont mission de gérer l'intérêt commun, mais en fonction des objectifs nés, développés, exprimés par la société civile. Je crois que c'est là la clé, disons, des situations que nous vivions dans ces temps-là, mais ça nous renvoie à l'actualité la plus brûlante d'aujourd'hui.
Merci Roland Collin, je rappelle vos derniers mots dans votre livre « Apprendre, c'est comprendre pour agir » et vous reprenez à votre compte la pensée de votre vieux maître Sénoufo, Tiozanga. N'oublie jamais qu'aujourd'hui est le fils d'hier et le père de demain. Roland Collin, libre passeur africain. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, réalisé par Hugo Violas, avec la complicité de notre documentaliste Laurent Sarniguet. Un grand merci au Festival Étonnant Voyageur pour son accueil. Et vous retrouverez d'ailleurs la vidéo de Roland Collin et Felwine Sarr sur notre page Facebook. Merci également aux cousins bretons de Roland, Marie-Aline et François pour l'accueil de notre reporter et bien sûr pour les crêpes. Et bien entendu, je vous recommande vivement le livre de Roland Collin, La Toison d'or de la liberté. C'est aux éditions Présence Africaine. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, écrivez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.